En ce temps-là, les pharisiens vinrent trouver Jésus et l'un d'eux, un docteur de la loi, l'interrogea pour le mettre à l'épreuve. Il lui dit « Maître, quel est donc dans la loi le plus grand des commandements ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier, le plus grand des commandements. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Or, comme les pharisiens étaient réunis, Jésus leur posa cette question. Quel est votre avis sur le Messie? De qui est-il le Fils? Ils lui répondirent, de David. Il leur dit, comment se fait-il donc que David, sous l'inspiration divine, l'appelle Seigneur, quand il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Si David l'appelle Seigneur, comment donc est-il son fils ? Personne ne pouvait rien lui répondre, et depuis ce jour-là, nul n'osa plus l'interroger. Il y a quelques instants, je n'ai pas pu venir hier, pour la simple et bonne raison qu'il y avait des perturbations sur les lignes de RER, et que je ne voulais pas risquer, voilà, pour un simple aller-retour, de passer des heures en gare. Je n'en avais pas le loisir. J'espère que personne n'est arrivé ici en trouvant porte close. J'ai essayé de faire en sorte que chacun soit averti. Donc, d'une part, reçu l'appel. Ouais. Deuxième petite annonce, il s'agit de la 21e marche de prière pour la vie organisée par l'association Renaissance catholique. Cette marche aura lieu samedi 15 octobre prochain de Notre-Dame-des-Victoires, qui est tout près du centre Saint-Paul, au Sacré-Cœur de Montmartre. Voilà un bel itinéraire pour implorer, tout en se faisant voir de la cité, pour implorer la miséricorde divine, voilà, ce beau combat pour la vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mon homélie sera très brève parce que j'ai eu très peu de temps pour la préparer, mais je compte sur le Saint-Esprit pour féconder les quelques mots que je vais vous adresser. En ne considérant que l'extrait d'évangile d'aujourd'hui, on ne réalise pas exactement quelles étaient les circonstances dans lesquelles ce dialogue entre Jésus, les scribes et les pharisiens s'est tenu. On a l'impression d'une discussion un petit peu tendue, mais sans plus. Or, dans l'évangile de saint Matthieu, d'où est tiré cet extrait, en réalité, quelques versets plus tôt ont fait allusion au dimanche, ou plutôt à la fête des rameaux. Jésus est déjà entré pour la dernière fois dans Jérusalem, il a été accueilli par les foules de Jérusalem, et en réalité ce dialogue entre Jésus et les élites de la loi se tient pendant la semaine sainte. Vous voyez qu'on est au paroxysme de la tension entre les élites juives et notre Seigneur qui s'apprête à se livrer. Nous sommes vraiment entrés dans la semaine la plus tragique de l'histoire. Dans les versets qui suivent, du reste, le Seigneur Jésus se livre à un réquisitoire. J'allais dire sans pitié, ce serait oublier le cœur de Jésus. Il se livre à un réquisitoire extrêmement dur contre les scribes et les pharisiens, par ce qu'on appelle les malédictions. « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites ?» C'est ce qu'il leur dit, une sorte de réponse, si vous voulez, à l'enseignement qu'il donnait au début de sa vie, 3 ans plus tôt, sur la montagne. Il s'agissait des béatitudes. Bienheureux êtes-vous, etc. Eh bien, à ces béatitudes adressées à tous les hommes de bonne volonté, répondent ces malédictions qui viennent à la fin de la vie du Christ devant la résistance du cœur et de l'esprit de ses scribes et de ses pharisiens. On a une sorte de piège qui se referme sur le Seigneur, une sorte d'entonnoir dans les versets qui précèdent immédiatement l'évangile d'aujourd'hui. Les pharisiens, les scribes et les sadducéens viennent trouver Jésus pour lui poser toutes sortes de questions, afin non pas d'être éclairés sur la vérité, mais tout simplement de, comme d'habitude, chercher à le mettre publiquement en contradiction avec ce qui compte le plus aux yeux de la foi d'Israël, la loi et les prophètes. Voilà le grand projet de ces gens que la présence de Jésus dérange. Ils veulent le mettre en contradiction avec Moïse, avec Salomon, avec David, avec Isaïe, tous ces noms glorieux du peuple d'Israël. Mais, évidemment, chaque tentative échoue et Jésus échappe de chacun de ses pièges, mais le voilà comme au pied du mur. Ils sont persuadés, ces braves gens, qu'ils vont enfin pouvoir coincer le Seigneur, et ils lui posent cette question, Seigneur, quel est le plus grand des commandements de la loi ? Là, ils attendent frapper un grand coup. Ils attendent que le Seigneur, enfin, se montre parfaitement hétérodoxe. Or, nous voyons bien ce qui advient. Le Seigneur, comme à son habitude, mais d'une manière assez brillante, démonte le stratagème et répond pied à pied à ces pauvres gens. Voilà, la technique oratoire de Jésus est très simple. Il procède en deux temps. Premièrement, il met les pharisiens, il retourne, si vous voulez, c'est un excellent judoka, le Seigneur. Il retourne la force qui était orientée contre lui, puisqu'il montre aux pharisiens eux-mêmes qu'ils sont, eux, en contradiction avec la loi et les prophètes. Et il va même plus loin, il en termine, il en finit avec ses adversaires, puisqu'il montre par surcroît, sorte de cerise sur le gâteau, sorte de dernier coup basse, il leur montre qu'ils sont également en contradiction avec David. Il n'est pas question de David jusque-là, mais Jésus se permet le luxe de montrer qu'ils sont également en contradiction avec David. Alors qu'ils soient en contradiction avec la loi et les prophètes, c'est assez clair. Puisque la loi et les prophètes, et les pharisiens en conviennent, reposent entièrement sur ce double commandement de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Or, nous avons déjà vu, il y a quelques semaines, en commentant l'Évangile, que le prochain dont il s'agissait, c'est toute personne qui vient devant un juif. C'est le tout venant. Ce n'est pas la personne de ma caste, ce n'est pas la personne qui me plaît, comme coutume de le faire les pharisiens, qui n'avaient d'égard que pour les autres pharisiens, les sadducéens qui n'avaient d'égard que pour les autres sadducéens, etc. Jésus a déjà élargi cette vision du prochain. Mais voyez-vous, les pharisiens et les scribes qui se gargarisent de respecter ce précepte et acceptent même parfois de respecter d'autres prochains que leurs prochains immédiats, les membres de leur secte ou les membres de leur famille, ne respectent même pas, à tant soit peu, notre Seigneur. C'est ça qui saute aux yeux lorsqu'on voit Jésus répondre aux pharisiens. Il leur dit, oui, le double commandement, et c'est un reproche implicite. Il affirme cette double règle, tu aimeras ton Dieu plus que tout, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'en ajoute pas plus, mais la situation est claire. Devant la foule entière, pharisiens et scribes montrent le mépris qu'ils ont pour le Seigneur Jésus. Ils ne cherchent qu'une chose, le coincer et le dénoncer. Et ça, la foule n'en est pas dupe, et le Seigneur ne va pas plus loin. Ils sont donc en contradiction avec ce fondement de la loi juive qu'est le principe du commandement de Dieu plus que tout et du prochain comme soi-même. Mais je vous le disais, Jésus va plus loin. Il les pousse dans leur retranchement, il leur montre qu'ils sont également en contradiction avec David. Pourquoi ? Parce que, nous le savons, le peuple élu attend un Messie qui descend de la race davidique. Un Messie qui est de la dynastie du roi David. Or, David ajoute, parce qu'il est mu par le Saint-Esprit, même sans en avoir conscience, dans ses psaumes, il ajoute que ce fils qu'il aura, cette descendance, ce Messie qui va sortir de sa dynastie, il ne s'agit pas seulement de le considérer comme un homme, mais bien comme son Seigneur. David appelle ce fils son Seigneur. Or, le Christ, que la foule vient d'acclamer, je vous le disais, le jour des rameaux, sous le titre très évocateur de « Fils de David ». Hosanna, fils de David. Le Seigneur Jésus, dont on peut d'ailleurs établir clairement la généalogie, les pharisiens et les scribes auraient été bien censés de se renseigner sur les origines du Seigneur, c'est-à-dire que, et par sa mère, et par son père putatif, aux yeux des pharisiens, c'était son père biologique, il descendait de la race davidique, et voilà qu'il est appelé par les foules le fils de David. Ils auraient donc dû reconnaître en lui le Messie. Et reconnaître en lui le Messie selon les prévisions de David, c'est-à-dire un Messie qui n'est pas seulement homme, mais qui est le Seigneur de David, c'est-à-dire un Messie Dieu. Le raisonnement est un petit peu complexe, j'en conviens, mais vous voyez clairement là que le Seigneur Jésus dénonce ces scribes et ces pharisiens qui se réclament sans cesse de l'autorité de David notamment, qui récitent les psaumes, puisque ce sont ces psaumes qu'on attribue à David, matin et soir, et qui sont incapables de décoder et les propos de David quant au Messie qui descendra de lui, et l'identité de Jésus qui répond à tous ces critères point par point, qui se montre fils de David par la race humaine, qui se montre Messie par tous ses actes et par ses enseignements, et encore une fois par cette race humaine, puisqu'il est descendant de David, et qui devrait être considéré comme Dieu, parce que David a prédit que ce Messie qui descendait de lui serait Dieu. Vous voyez donc que le Seigneur raye de la carte toute contradiction des pharisiens, et on nous dit à la fin de cet extrait que Bec, personne ne pouvait plus lui répondre, et depuis ce jour, nul n'osa plus l'interroger. Ces maîtres de la loi, qui sont des sophistes, ou du moins qui sont des rhéteurs, qui sont capables de parler sans cesse, de commenter sans cesse, on sait la capacité d'adaptation et l'art oratoire de Prince d'Israël, eh bien, ces rhéteurs se trouvent incapables de répondre à de tels arguments. Alors, il ne leur reste plus qu'une seule solution, la solution des faibles, c'est-à-dire intervenir par la force, faire intervenir le bras séculier, si j'ose dire, du temple, qui est l'occupant romain. Le Seigneur Jésus, donc, a réussi à triompher de cette opposition des scribes et des pharisiens. Nous sommes à un point névralgique, à un point clé, et il faut en prendre conscience. Le Seigneur est victorieux de toute contradiction de ceux qui entendent emprisonner la loi d'Israël dans leurs petites convictions personnelles à leur convenance. C'est quelque chose dont on n'a pas tout à fait conscience. Lorsqu'on envisage la Semaine Sainte, on se dit, le Seigneur, oui, il est vainqueur le dimanche, il est vainqueur le jour de la résurrection. Non. Jésus est déjà vainqueur de ses adversaires, argument contre argument, point par point, dès le début de la Semaine Sainte, par ce simple dialogue avec les pharisiens. Il les montre en contradiction avec la loi et les prophètes et avec le roi David. Vous voyez la puissance du Seigneur, et vous voyez combien les petits babillages humains de ces gens-là ne triomphent pas de la parole éternelle qui s'est incarnée et qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à relire ce court extrait de l'Évangile à la lumière de ce que je viens de vous dire. Parce que les pièges, plutôt la trahison dont vivent les pharisiens et les scribes, nous en vivons régulièrement. Ce double commandement de l'amour de Dieu et du prochain, nous le prêchons en permanence et nous le confessons lorsque nous venons à la messe, nous le confessons. Ce respect pour les saintes lettres, pour les psaumes, pour tout ce qui est contenu dans l'Écriture, bien sûr, nous le professons également. Nous sommes des catholiques de tradition, donc rien de la lettre ne sera retiré et nous mettons notre cœur à appliquer tout ce qui est dans la lettre. Oui, mais je pense que nous sommes sans cesse, et au fond de bonne foi comme on constate, nous sommes sans cesse en train de trahir ce double commandement de l'amour et tout l'enseignement contenu dans la loi, psaume compris. Nous devons demander cet éclairage du Seigneur Jésus pour comprendre jusqu'où nous devons aller dans l'ordre de l'amour de Dieu et du prochain et jusqu'où nous devons aller dans la mise en application de tout ce qui est contenu dans les saintes lettres. Vous voyez, rien de bien nouveau, mais toute personne versée dans les lettres, comme tout bon père de famille, doit user du neuf et de l'ancien. Alors, mes frères, demandez au Saint-Esprit cette lumière, de façon que, vraiment, ce commandement double de l'amour de Dieu et du prochain et tout ce qui est contenu dans les saintes lettres entre concrètement dans votre vie chrétienne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.